Depuis le port de Calais, les jours de beau temps, on aperçoit les rivages de l'Angleterre, destination visée par des hommes et des femmes qui parcourent des milliers de kilomètres dans l'espoir de s'y installer ou d'y travailler. En ville, les mouvements de solidarité s'organisent pour les accueillir au mieux depuis les années 90 et la mise en place des politiques de contrôle et de sécurisation de la frontière franco-britannique. C'est l'histoire de ces collectifs de militants que nous allons retracer dans ce documentaire, avec le politologue Pierre Bonneval, mais aussi avec Véronique, Louise et Marguerite, qui ont chacune vécu des époques spécifiques de l'aide aux personnes exilées.
En fait, les premiers mouvements à la fois de solidarité sont forcément liés donc aux premières arrivées de personnes exilées sur le territoire calaisien.
Pierre Bonneval, chercheur en sciences politiques.
En gros, ça, on date ça fin 80, début 90. Et donc, on a plutôt des habitants, plutôt des riverains qui les aperçoivent, qui commencent à apporter aussi une aide humanitaire dans les espaces portuaires où les personnes attendent de passer pour aller en Grande-Bretagne.
Bonjour.
Bonjour monsieur, entrez, je vous en prie.
Merci beaucoup.
Véronique, moi je voulais vous rencontrer parce que vous avez connu les débuts des mouvements de solidarité à Calais au milieu des années 90. Est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots ce qui a déclenché votre engagement ?
Je me promenais dans les rues de Calais et tout d'un coup j'étais sur un trottoir et j'ai vu de l'autre côté environ 200 personnes jeunes, garçons, étrangers et qui semblaient mal en point. Et intérieurement, je me suis dit, je traverse ou je traverse pas ? Et j'avais la trouille. Et finalement, j'ai traversé. Et alors, quand je suis arrivée au milieu d'eux, c'était un tel accueil gentil, sourire, qu'en fait, ça m'a comme séduite. Je me suis dit, je vais les aider. Voilà, c'est un peu le tout premier déclenchement.
Et selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez traversé la rue à ce moment-là ? Parce que c'était une situation complètement inhabituelle.
En fait, je crois que j'ai eu de la compassion. J'ai ressenti quelque chose pour ces gens. Le service des autres est pour moi très important dans ma vie. Donc, je pense que c'est à cause de ça.
Et alors, ces jeunes, vous saviez d'où ils venaient ?
Ils étaient en particulier du Kosovo et d'Irak. Il y en avait à peu près autant du Kosovo que d'Irak ce jour-là quand je les ai rencontrés.
Comment vous avez fait pour communiquer avec ces Kosovars et ces Irakiens ?
Je baragouine un peu l'anglais, mais vraiment je baragouine. Donc je me débrouillais un peu comme ça. Et puis quand même, on fait beaucoup de gestes. J'allais dire aussi que la langue du cœur, elle passe par les yeux, les mimiques, les sourires, les gestes. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive quand même à communiquer entre nous. Au début, on était 4-5, je me rappelle, on prenait nos gamelles de chez soi et on allait les porter, je me souviens de la rue de Beach en particulier, et je me souviens très bien de quelque chose, on les faisait asseoir, les Kosovars d'un côté, les Irakiens de l'autre, sur le trottoir, et on passait avec ce qu'on avait. Et malheureusement, on n'avait jamais assez. Et petit à petit, il y avait une association qui s'appelait La Belle Étoile. Et donc, on s'est rapproché de La Belle Étoile. On a formé tout un collectif de plein de petites associations qui s'appelait le collectif C'est Sûr.
Très concrètement, donc il y avait de l'aide alimentaire. Et est-ce qu'il y avait d'autres activités que vous meniez ?
Alors, l'aide alimentaire, la recherche de vêtements pour eux, etc., ça c'était premier et quotidien. Mais tout d'un coup, je me rappelle, je me promenais avec ma petite trousse de secours et comme une maman, pas plus, j'allais au-devant d'eux et je leur nettoyais un peu les pieds parce qu'ils avaient très mal aux pieds, ils avaient des blessures. Et je faisais ça régulièrement, je me rappelle, c'était sur les rails qui étaient près du côté du BCMO par là. Et à chaque fois, je me souviens que je faisais ça. J'allais toutes les après-midi, j'allais là, je m'asseyais avec eux et j'essayais de... Voilà.
Et vous étiez bien reçue ?
Ah, j'ai toujours été bien reçue. J'ai jamais eu, depuis 1997, j'ai jamais eu aucun problème, mot d'irrespect ou d'attitude d'irrespect, irrespectueuse de leur part. Jamais, jamais, jamais.
à ce moment-là, on a quand même quelques sortes de tâtonnements, en fait, de l'État, qui, d'une certaine manière, ne sait pas trop quoi faire, en fait, dans cette situation. Il y a une forme de bricolage sur comment prendre en compte ces personnes. On a d'un côté des personnes qui sont en difficulté, des associations qui apportent un soutien aux personnes. De l'autre, la collectivité, enfin en tout cas la mairie de Calais qui ne veut pas s'en occuper, qui ne veut pas entendre parler, d'autant plus que les personnes sont dans des espaces qui ne sont pas des espaces de la ville. D'une certaine manière, c'est pas comme s'ils occupaient le territoire en tant que tel de Calais, mais plus les espaces portuaires. Et donc pour la ville, c'est pas son problème. Et en fait, là, le problème devient visible quand, après la fermeture du hangar bord, les personnes exilées occupent le parc Saint-Pierre-Saint-Paul, qui se trouve en face de la mairie de Calais. Et donc là, d'un coup, donc le maire de l'époque, Jean-Jacques Barthes, demande à l'État d'intervenir, de dire « c'est pas possible, en fait, on veut pas qu'elle soit là, en fait, on veut qu'elle parte ». Et donc là, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est donc le préfet du Pas-de-Calais qui décide, presque tout seul finalement, de réquisitionner en fait le hangar qui appartient à Eurotunnel et qui deviendra le camp de Sangatte, géré par la Croix-Rouge, où pendant 3 ans, ça devient un espace, on peut dire, d'assignation à résidence. Donc ce que disait notamment Violette Carrère, c'est que c'était à moitié sécuritaire, à moitié humanitaire.
Alors Sangatte a été, une deuxième page. C'était immense, il y avait à l'intérieur du camp, il y avait des Algéco ou des grandes tentes avec les diverses nationalités, ils étaient un petit peu par ethnie, et c'est un lieu où il y avait quand même un petit peu tout ce qui leur était nécessaire. Il y avait la cuisine, ils avaient donc la nourriture, ils avaient des soins médicaux, il y avait des médecins et des infirmières, il y avait aussi des gens qui étaient là, des traducteurs, il y avait toutes les possibilités au niveau administratif pour leurs papiers, etc. Ils pouvaient rencontrer des personnes. Et Sangatte, tout au début, je me souviens, on n'a pas été tout de suite, en tant que bénévole et ne faisant pas partie d'une grosse association, il a fallu qu'on parle un petit peu avec le directeur, Michel Dair, pour qu'il dise « ben oui, d'accord, je veux bien que vous veniez, mais vous pouvez venir de telle heure à telle heure ». Ça a commencé comme ça. Et on a commencé par être au service des enfants. On allait dans le hangar, l'immense hangar, là, et on faisait jouer les enfants, on chantait avec eux, on dansait, on faisait ce qu'on pouvait. Et très vite aussi, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait demandé de faire du français avec quelques-uns des adultes. Et là, j'y allais donc tous les jours. Je dis toujours, j'ai peu voyagé, mais j'ai voyagé grâce à toutes ces nationalités que je rencontre. En fait, ça a changé complètement ma vie. J'en suis très, très heureuse. Pas heureuse de ce qu'ils vivent, mais heureuse des rencontres que j'ai faites avec eux parce qu'elles sont très riches. Ce sont des gens extraordinaires, je trouve, et je trouve qu'ils sont d'une grande humanité.
À partir de la fermeture du camp de Sangatte, on constate ensuite une espèce d'errance des pouvoirs publics qui vont continuellement ouvrir, fermer, démanteler des camps pendant plusieurs années. Comment s'organisent les mouvements de solidarité pendant les 10 années qui suivent Sangatte ?
Juste après la fermeture de Sangatte, donc le dispositif Ulysse est lancé par le ministère de l'Intérieur et piloté et mis en place par le préfet du Pas-de-Calais, donc Cyril Schott. C'est vraiment une présence policière très forte sur le territoire où l'idée c'est d'interpeller, d'enfermer, mais aussi de disperser. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a des centres d'hébergement dans l'arrière-pays où il s'agit d'héberger pour une nuit, 2 nuits, les personnes exilées qui ont été éloignées, disons, par les forces de l'ordre du territoire du Calaisie vers d'autres territoires, en sachant que même les pouvoirs publics, en fait, sont conscients que ça ne marche pas. L'idée, c'est vraiment de vraiment d'invisibiliser, d'éloigner, mais aussi de favoriser d'une certaine manière l'auto-expulsion, de dire en fait, avec une présence policière forte, les gens vont à un moment donné essayer de partir d'eux-mêmes et donc ne plus revenir à Calais pour essayer de passer en Grande-Bretagne. Et en fait, ça aussi, ça, c'est intéressant en fait, ce passage-là, dans le sens où pour les associations, pour les habitants même qui s'organisent de manière informelle, C'est pas évident en fait d'aller vers les gens, d'aller les soutenir, d'aller distribuer de la nourriture, d'aller distribuer des couvertures aussi, parce que les gens finalement sont forcés à l'errance par les pouvoirs publics, et donc c'est pas évident non plus d'organiser des collectes et donc de distribuer des denrées ou autres. Et donc il y a quand même une structuration de la vie associative qui se fait, notamment à Grande-Synthe, ce qui est plutôt un bon exemple aussi, où c'est un endroit où finalement il y a une fixation aussi des personnes, donc autour du baroque. Et donc il y a des associations, je pense notamment à Salam, qui s'organisent aussi pour les soutenir. Il y a aussi le Secours catholique et Médecins du Monde aussi, à ce moment-là aussi, qui intervient sur cet espace-là. Et ça permet aussi justement d'organiser l'aide humanitaire des personnes.
Et arrive vers 2009 le moment No Border, non?
En gros, à partir de 2009... plus ou moins en 2009, c'est toujours plus compliqué à dater, mais il y a le mouvement No Border effectivement qui s'investit davantage sur Calais, avec entre 2009 et 2014, c'est ce qu'on appelait un peu l'ère des squats, hein. C'est-à-dire il y a des personnes exilées qui sont dans la rue, qui sont dans des conditions particulièrement précaires de vie, et donc le mouvement No Border participe à l'ouverture de squats dans des maisons abandonnées, dans des entrepôts abandonnés aussi, parce qu'il faut savoir aussi que Calais, pour les habitants aussi, c'était une période aussi qui date un peu, mais qui s'est accentué avec le temps, c'est de désindustrialisation. Et donc, on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé, donc beaucoup d'entrepôts, beaucoup de maisons abandonnées aussi, qui laissent des opportunités, finalement, pour être logées. Et donc, No Border va participer à ouvrir des squats, à permettre aux personnes exilées de créer leur lieu de vie, souvent par communauté, mais pas que, mais ça, c'était souvent ainsi. Et donc là, c'est tout ce mouvement No Border qui existe et qui accouche, je trouve, d'un lieu qui est particulièrement intéressant. C'était le squat donc Victor Hugo, donc, qui est ouvert en juin 2013, qui est un lieu pour les femmes et leurs enfants. Et c'est un lieu qui a été particulièrement politisé au moment où la propriétaire du logement souhaite les expulser. Et donc là, on a des différentes associations qui se mobilisent pour dire à l'État, bah en fait non, c'est un lieu de vie, cette propriétaire a plusieurs logements, elle a pas, ce logement est abandonné. Et ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là où l'État tâtonne, dans le sens où l'État ne sait pas trop comment réagir. C'est un lieu qui est politisé, c'est un lieu qui est visible, et en plus c'est un public spécifique pour le coup, donc des femmes, des enfants, qui permet pas pour l'État de rentrer dans la même logique habituelle d'expulsion, parce que c'est plus coûteux politiquement, d'une certaine manière, d'expulser un lieu de ce type. Et là, on a l'État qui décide de financer un lieu, de financer une association pour créer un dispositif qui permettrait d'accueillir ces personnes-là dans un autre espace de vie. Et donc, ce qui deviendra la Maison des Femmes, donc en juillet 2014.
Et donc, tout autour de ce centre Jules Ferry, en fait, va se constituer un camp purement informel qui est connu sous le nom de la Grande Jungle.
L'idée, c'est juste un lieu qui continue à héberger en dur donc les femmes et leurs enfants. Au début, il me semble que c'est 200 places qui leur sont accordées. Et aux alentours, un espace où les personnes exilées sont tolérées, sont forcément d'avoir beaucoup d'apports en termes humanitaires, c'est-à-dire que l'État ne participe pas forcément à l'installation de points d'eau, de points de douche, ni de repas, ni rien. C'est les associations qui continuent à gérer. Et donc l'État, d'une certaine manière, participe à créer un immense bidonville qui n'aura de cesse de grossir tout au long de la période.
La jungle, 14 hectares de land à l'est de Calais, de son port et de ses zones industrielles. Un territoire borné par des grilles hérissées de barbelés. Elles ont été édifiées cette année pour empêcher les migrants de gagner l'Angleterre. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Grégoire.
Louise, enchantée. Ça va?
Ouais, ça va, ça va, ça va.
Tu bois un thé peut-être?
Alors Louise, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as mis les pieds donc, dans la Grande Jungle?
Ce terrain, au départ, il était vraiment inhospitalier, c'est-à-dire qu'il y avait des déchets de construction, donc des blocs de béton, j'ai vu encore il y a pas longtemps des photos, il y avait des pierres tombales, donc d'énormes blocs de marbre et tout ça, enfin genre des trucs improbables, plein de cartouches de chasseurs, parce que c'était des terrains de chasse, puis un endroit où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Mais du coup, sur cette grande jungle, bah, comme la mère avait dit, allez sur ce terrain, bah, en fait, les gens y sont allés, mais à fond, quoi. Ils ont commencé à construire et à acheter des matériaux, des bâches, des clous, des kits, en fait, pour fabriquer des cabanes, quoi.
Et à l'époque, en quoi a consisté ton engagement sur place?
J'ai dessiné beaucoup. Pour communiquer et dire aux gens, bah voilà, il y a ça qui se passe. Et très souvent, les personnes n'aiment pas qu'on les prenne en photo quand elles sont dans des conditions difficiles. Et le dessin, c'est une approche qui est plus, souvent plus facile.
Est-ce que c'est possible d'y jeter un coup d'œil à ces dessins?
Oui, je les ai dans les cartons. Alors, il y a des trucs un peu partout. C'est là. Hop. Par exemple, je prends la première qui vient comme planche. Donc oui. C'est une composition avec, il y a des portraits, il y a des dessins d'une cuisine.
Oui, donc là on a un papier, un panneau carrément parce que c'est assez grand. Du coup là, donc on a un grand panneau avec sur la partie haute, la moitié haute, une série de tentes de construction en cabane qui est appelée le bidonville. Et dans la partie inférieure, il y a des portraits de plusieurs hommes. Donc il y a par exemple Kurt, qui est un rappeur calaisien. Il y a aussi Hassan, là, qui se fait raser les cheveux, c'est ça ?
Tresser, il se fait tresser les cheveux. Bah, enfin, c'est des choses assez banales. Je veux dire, il y avait pas mal de coiffeurs ou de moments... Enfin voilà, je veux dire, il y avait des choses très belles qui s'y passaient. Il y avait un théâtre, il y avait de la musique... Et aussi des choses difficiles. Et enfin, je me rappelle d'être partie plusieurs fois avec le bidonville recouvert de gaz lacrymogène, parce que quand la police gazait, bah tout le camp prenait, y compris des femmes et des enfants qui étaient dans les tentes. Et c'était aussi très violent et difficile, enfin par plein d'aspects aussi. Mais on était avec des amis et c'était important d'être là avec les gens et de raconter ça. J'apporte pas d'eau ou une aide alimentaire, etc. Et du coup, les gens se demandent un peu au début, mais c'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Et après, bah, le lendemain, je reviens. Et puis cette fois, c'est 3 ou 4 personnes qui vont me demander, ah, tu peux me dessiner. Du coup, c'est le dessin, il crée un lien un peu particulier avec les gens.
On peut voir aussi le bidonville de Calais comme un peu un espace des possibles. On a effectivement des théâtres, on a des écoles, des lieux de culte qui s'instaurent. On a des petites entreprises, des petites boutiques qui se créent pour vendre de la nourriture, pour vendre des vêtements, des free shops aussi qui se mettent en place, qui permettent en fait de créer un vrai espace de vie. Et il y avait des bars aussi où certains bénévoles pouvaient se retrouver sur le bidonville pour boire des verres avec les personnes ou entre bénévoles uniquement. C'est une vraie petite ville en fait qui s'était créée aussi, qui permettait toutes ces choses. Il n'y a aucune association qui est pour le bidonville de Calais, il n'y a aucune association qui était pour le camp de la Linière. Ce sont des solutions temporaires, des dispositifs d'urgence, et c'est mieux que rien. Parce qu'en fait, les camps dans lesquels vivent les personnes, c'est jamais salubre, et c'est jamais la réponse en fait qui doit être apportée. Les réponses, en tout cas les questionnements que les associations portent auprès des pouvoirs publics, c'est déjà en fait que l'État respecte la loi, c'est-à-dire d'héberger les personnes dans des centres d'hébergement. C'est aussi que l'État permette aussi aux personnes de pouvoir passer en Grande-Bretagne si c'est leur choix. C'est aussi faire en sorte que l'État réponde aux besoins humanitaires, que ce soit l'accès à la nourriture, à l'eau, aux toilettes. C'est toutes des choses là-dessus où elles se battent, mais elles ne sont pas pour les camps en tant que telles. C'est juste qu'effectivement, le bidonville de Calais permettait plein de choses, mais ce n'était pas non plus la solution, ce n'était pas ce qui était le plus souhaité non plus et le plus souhaitable non plus.
Louise, est-ce que tu te rappelles du démantèlement de la jungle ?
Alors, j'avais pas... moi, j'avais pas voulu y aller parce que c'était trop dur, en fait. Ça m'aurait trop fait mal d'aller sur place pendant le démantèlement. Mais on a été là-bas, du coup, avec des amis la veille. On a été dans un restaurant où on allait souvent. On a retrouvé les gens qu'on connaissait là-bas. Qui étaient morts d'inquiétude parce qu'ils savaient pas le lendemain où est-ce qu'ils allaient aller. Et on a mangé avec eux, on avait ramené plein d'instruments, j'avais des amies anglaises qui étaient là, et c'était comme une fête, la veille du démantèlement, donc je pense que même dans les situations difficiles, les personnes, elles perdent pas forcément leur humour, justement, souvent, elles rient de leur situation et de leur malheur, en fait, et Calais, c'est une tragédie, et en même temps, il y a tellement d'humanité, et tellement de belles choses aussi chez les personnes, en fait, que, enfin, on garde, enfin, moi, c'est vraiment les personnes qui me font garder espoir, quoi. Mais à cette époque-là, en tout cas, on était tous au même endroit, on se croisait tous dans ce territoire quand même petit, et on partageait une communauté, en fait.
Le démantèlement de la jungle commence dans le calme. Dès le début de la journée, sous protection policière, une vingtaine de personnes mandatées par l'État détruisent à la main les cabanes de fortune. Mais rapidement, le face-à-face entre les forces de l'ordre et les occupants s'envenime. Un abri est incendié par des migrants désespérés devant la démolition du camp.
Depuis la fin du démantèlement du bidonville de la Grande Jungle, il y a un vrai paradoxe qui se dessine. D'une part, l'État semble délaisser complètement sa responsabilité d'accueillir les migrants dans des conditions dignes en s'appuyant sur le secteur associatif. Et en même temps, l'État n'arrête pas de mettre visiblement des bâtons dans les roues des associations.
Finalement, il y a une forme de délégation de l'État auprès des associations pour répondre aux besoins humanitaires des personnes exilées. Et dans le même temps, comme tu dis, c'est une politique qui vise aussi à criminaliser, à empêcher les associations, les bénévoles, de faire ce travail d'aide aux personnes exilées. On a je ne sais combien de cas d'atteintes aux bénévoles, que ce soit des atteintes qui pourraient être très simples, comme de la verbalisation, des amendes ou autres, notamment liées soit à des problèmes avec une voiture, où en fait beaucoup de bénévoles se font contrôler systématiquement quand la voiture est identifiée comme Utopia, par exemple, avec des contraventions qui leur sont attribuées parce qu'il y a un micro-truc qui ne va pas.
Allô ?
Oui, Marguerite, je suis pas sûr de te voir sur le parking.
Ah si, je te vois, moi. La portière qui s'ouvre.
La portière qui s'ouvre à ma...
Là. Non, à droite, à droite.
À ma droite.
Coucou. Ah.
Alors Marguerite, toi tu es coordinatrice pour l'association Utopia 56 qui a été créée en 2016 pour venir en aide aux personnes exilées. Et toi tu es arrivée à Calais il y a à peu près 2 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as constaté que les autorités ne vous facilitaient pas la tâche. Je te laisse tourner.
On est beaucoup entravé dans notre travail d'aide. Ça relève même du harcèlement et de l'intimidation, etc. L'autre jour, on était là, sur ce rond-point. En fait, il y avait des personnes qui venaient de faire naufrage, qui étaient déchargées juste là. Et donc nous, on était en maraude pour voir les personnes naufragées et les aider. Et donc, je me suis garé sur ce petit voie là, qui a pas l'air très dangereuse quand même, ça, j'étais bien garé en soi. Et en fait, ils m'ont mis 2 PV de franchissement ligne continue, parce que pour sortir de cette place, je vais franchir la ligne continue. Donc bon, ça fait 6 points quoi. On a déjà eu des menaces de garde à vue, des menaces de... C'est aussi des choses pour nous faire peur, pour nous dissuader, pour... Voilà, une menace de garde à vue, bon bah personne n'a envie d'y aller, donc... En garde à vue, donc forcément ça fait un peu peur quoi.
Il y a eu le Secours catholique qui avait tenté aussi à un moment donné d'installer des points douche dans son local. Et ils avaient été empêchés par la mairie de Calais. En fait, je crois que le Secours catholique a pu installer une douche. Et ensuite, une benne était venue se poser là. Et donc là, Secours catholique qui a atteint un recours et il gagne. Et donc la ville est condamnée et doit retirer cette benne. Et ensuite, c'est la police qui prend le relais. Dans le sens où la police se stationne à proximité du local Secours catholique pour contrôler, pour interpeller les personnes exilées qui voudraient éventuellement avoir accès à une douche. Et donc on a ce travail-là en coordination aussi, c'est de dire d'un côté la ville émet un arrêt municipal, si c'est retoqué par la justice, c'est la police qui vient en soutien. S'il y a des contestations sur les pratiques de la police, c'est aussi l'État qui revient en relais avec des arrêtés préfectoraux. Ça, on a l'exemple sur la distribution alimentaire, par exemple. Donc, il y a eu plusieurs arrêtés, notamment de la municipalité de Calais, hein, qui interdisait certains espaces pour distribuer la nourriture aux personnes exilées. Ça a été retoqué par la justice. Mais qu'est-ce qui se passe? La police est intervenue aussi pour, à certains moments, empêcher distribution, écourter la durée des distributions, mais aussi pour, à certains moments, gazer, interpeller des personnes, voire en sanctionnant aussi des bénévoles présents, en les menaçant aussi pour certains, pour l'aide qu'ils apportaient aux personnes. Ensuite, c'était l'État qui est intervenu, et notamment donc Gérald Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, qui a mis des arrêtés préfectoraux pour empêcher les distributions alimentaires sur certains espaces, à nouveau, de Calais. Donc là, on voit comment il y a tout effectivement un travail coordonné, on peut le dire, des différents échelons politiques, que ce soit au niveau local ou national, pour empêcher les associations d'apporter une aide humanitaire aux personnes exilées.
Et alors Marguerite, est-ce que tu peux me dire où on va là maintenant?
Bah là on est même, hein. On est dans un lieu qui s'appelait Big Jungle. Il y a un an, c'est la rue des Huttes ici, rue des Mouettes là-bas. Là, on est sur la route de Gravelines. En fait, c'est là où il y avait le campement qui a été évacué le 10 et le 11 juillet 2020, où il y avait à ce moment-là à peu près 1500 personnes qui habitaient là, enfin, qui survivaient là.
Donc là, on est sur une des zones qui était à l'époque occupée par des exilés et aujourd'hui, donc, avec tous ces fils barbelés, ces grandes barrières et même, je vois, des algécos là, qui ont été posés, qui n'existaient pas avant.
Ça, c'est l'entrée derrière de là où on était tout à l'heure. Donc il y avait des personnes, en effet, qui habitaient dans les bois là-bas. Là. Maintenant, il y a un mur avec du barbelé en haut, un grillage de 3 mètres de haut avec du barbelé en haut, plus la grande grille qui a été fermée. Donc clairement l'endroit n'est plus accessible. Et là par exemple il y avait une famille qui habitait là, qui était là depuis très longtemps. Il y avait paf, c'était le deuxième entrée principale quoi. Donc voilà, maintenant il n'y a plus aucune possibilité d'habiter ici. Il y a plus de. C'est aussi mettre encore précariser les personnes, c'est-à-dire que les personnes ont trouvé une façon de s'abriter sous une tente avec des couvertures qui peuvent installer un peu un endroit qui soit un peu chaud et un peu abritant. Et là, on les enlève, on les expulse, on prend le matériel, on prend tout ce qu'elles ont tenté de construire, parfois leurs papiers d'identité, leurs récépissés de demande d'asile, leurs médicaments. Et donc, en fait, c'est vraiment précariser encore plus les personnes, les remettre encore plus dans l'urgence. C'est les emmener très loin, donc après, elles vont revenir...
C'est ça, j'allais dire, ces personnes qui sont éloignées dans toute la France, en fait, finissent par revenir ici à Calais, non?
De toute manière, elles reviennent à Calais parce que leur objectif, c'est de passer en Angleterre. Ça, c'est dû à plein d'autres choses, on peut en parler après. Mais de toute manière, elles vont revenir ici pour passer en Angleterre. Donc, les expulser, les envoyer très loin, c'est vraiment se leurrer sur pourquoi les personnes sont là et à cause de quoi elles sont là et quels sont leurs objectifs. Ensuite, c'est aussi maintenir et les personnes exilées et les associations dans l'urgence. C'est-à-dire que oui, en fait, en faisant sans cesse des saisies de matériel, en empêchant sans cesse les distributions alimentaires, en compliquant l'accès aux besoins, l'accès aux besoins fondamentaux, en fait, ça maintient les associations et les personnes exilées dans l'urgence, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur autre chose. Si on veut faire des actions plus politiques, si on veut vraiment réfléchir à la situation, faire de la collecte de données pour pouvoir faire ne serait-ce que du plaidoyer, du contentieux, enfin aller à des contentieux pour gagner, parce qu'en fait la situation ici, elle est impossible. Il n'y a rien qui pourrait justifier ça. Mais en fait, on nous maintient là-dedans en nous empêchant d'en sortir, même mentalement et physiquement, sortir de l'urgence.
Cette question de l'urgence, elle est très importante, dans le sens où... Comment définir l'urgence quand l'urgence est là depuis 30 ans? Tous les jours, il y a une expulsion. Tous les jours, il faut apporter de la nourriture. Tous les jours, il faut apporter de l'eau. Tous les jours, il faut aussi ramasser des ordures, il faut aider les personnes. Mais à quel moment il est possible de se poser aussi, de prendre du recul, et donc de reprendre du temps aussi pour politiser cet enjeu? C'est tout cet aspect finalement que l'État produit aussi, c'est empêcher les personnes, les associations pour le coup, de critiquer, enfin en tout cas de prendre du temps pour critiquer aussi l'action de l'État, où c'est difficile finalement de s'organiser, de se coordonner quand on prévoit une réunion et que en fait il se passe une expulsion au même moment, que en fait on se rend compte que les personnes exilées ont dû sont déplacées dans un autre espace de vie et que en fait ils ont besoin de nourriture. Donc en fait c'est toujours l'urgence pour les personnes qui s'investissent sur ces territoires. C'est un problème assez important qui crée aussi des, on peut le dire, bon là on parlera plutôt des bénévoles, mais des situations de burn-out aussi, hein, où tous les jours il faut se réveiller à 5 heures pour aller observer une expulsion, où tous les jours il faut préparer la nourriture, où tous les jours, il y a toujours des choses qui reviennent continuellement, une forme de routine qui fait que ça, les personnes à un moment donné explosent, sont épuisées aussi d'apporter une aide. Et on pourrait se poser la question si c'est pas, je pense que c'est pas un choix, en tout cas c'est pas une ambition de l'État, mais c'est une conséquence de ces pratiques aussi.
C'est quotidien, c'est-à-dire que tous les jours ils vont démanteler certains campements, il y en a d'autres c'est tous les deux jours, c'est parfois même plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par jour il y a des personnes qui se font violenter par la police. Là tu bouges, t'as pas le droit d'être là, je veux que tu sois là, c'est quand même d'une violence incroyable. Une des plus grandes entraves, ça va être de nous forcer à rester là-dedans aussi, nous empêcher de faire tout autre travail qu'une réponse humanitaire de base. Qui fait que en fait ça nous entrave, ça nous empêche de politiser vraiment le débat quoi.
Des liens très forts demeurent entre nous qui avons vécu là-bas, exilés et volontaires confondus, comme si cette expérience unique et difficilement transmissible que nous avons partagée avait soudé une communauté, presque une famille.
Extrait du texte « Ah, si j'étais riche » de Mathilde Robert, paru dans le numéro 123 de la revue Plein Droit.
S'y rencontrent d'un côté le désespoir et la haine des politiques de non-accueil, et de l'autre une forme de vitalité et de fraternité invincible. Au milieu des terrains vagues, des parkings, des barbelés, de la violence et du danger permanent, de la chance qui tarde parfois à venir, vibrer aussi la force et l'envie inaltérable de vivre.